Musée d'Orsay, conférence Les Nymphéas de Claude Monet, avec Daniel Buren, Gérard Wajman, Gilles Clément et Marianne Alphand.
Bonsoir. Dans un lieu comme celui-ci, un lieu magique, enveloppant, total, énigmatique aussi, un lieu d'expérience esthétique exceptionnelle, on ressent bien, je crois, l'aptitude qu'a eu Monet à disparaître dans sa peinture, à s'effacer dans sa peinture, à disparaître dans le paysage. La figure qui est celle de Monet, solide, enracinée, même si on peut aussi la considérer comme nomade, dans la quête qui a été la sienne de différents paysages, dans cette figure exposée de Monet, il s'expose à l'extérieur d'une façon tout à fait radicale, dans tous les sens du terme. Cette figure donc exposée a aussi un caractère singulièrement absent. Il est là, il est dehors, mais d'une certaine façon, on ne le voit pas, comme s'il se camouflait dans le paysage. Et ce qu'on dit de lui, ou ce que lui-même dit, ou qu'on lui fait dire, ce qu'on rapporte, c'est souvent très répétitif et très convenu. Donc on prend ici à la fois la mesure du génie de Monet, je crois, et de son exceptionnelle capacité à s'effacer dans le paysage. C'est une figure immense, c'est une figure mal vue, et Monet lui-même disait, quand il travaillait, qu'il est éternellement mécontent de ce qu'il faisait, c'est mal vu, mal pris. Bon, on peut lui appliquer ça aussi. Mal vu, Monet, mal vu, mal pris. Et j'ai souvent eu le sentiment, en travaillant sur Monet, qu'on ne lui rendait pas justice. Que des peintres qui étaient ses contemporains ont eu une sorte de mise en valeur exceptionnelle. Je pense à Manet et à ce que Bataille a pu écrire de lui. Je pense à Cézanne et à ce que Merleau-Ponty a pu écrire de lui. Mais il n'y a pas de grande figure intellectuelle qui, une fois Monet mort, se soit intéressée à son travail. Alors je remercie les invités de cette rencontre à venir contribuer à rendre Monet visible, à l'éclairer par d'autres biais que celle de l'histoire de l'art ou de l'histoire de l'impressionnisme. Je souhaitais que soit invité à parler de Monet des personnalités qui, d'une certaine façon, n'aient rien à voir avec Monet. Ou peut-être qu'ils ont à voir, mais ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas, comme ils m'ont tous dit, ce ne sont pas des spécialistes ou des historiens de l'art. Donc, Daniel Buren, Gérard Wajman, Gilles Clément. Un artiste, un psychanalyste, un paysagiste. Après qu'on ait vu ce qu'il pouvait dire de Monet et de la façon dont Monet entrait en résonance avec leur travail, nous donnerons la parole à Louis Dandrel qui a composé cette musique que vous avez entendue en vous installant pour cet espace des Nymphéas. Et qui viendra parler de son travail. Alors, je pense que la parole est à l'artiste sur l'artiste, et c'est donc Daniel Buren qui va commencer.
Bonsoir. Bon, c'est pas très facile de parler comme ça, brûle pour point. Je dirais tout d'abord que, d'une façon paradoxale, Monet, parmi tous ces géant du 19e et du 20e siècle, a toujours été quelqu'un dont le travail m'a fortement intrigué et dont je me suis souvent un peu servi comme exemple, parfois à contrario. Et je vais être très court, parce que peut-être que dans une discussion, il y aura d'autres choses à dire. Je dirais qu'il y a des choses fondamentales que Monet a sans doute été le premier à expérimenté et touché, parmi lesquels l'idée de série, par exemple, qui est quelque chose qui a fait vraiment florette dans le travail des artistes qui l'ont suivi, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, Et curieusement, c'est quand même assez rarement que l'on fasse des notions et des rapprochements avec ce travail. Alors, est-ce que c'est, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais est-ce que c'est parce qu'il a été complètement submergé par la force, la réputation, l'extraordinaire aura de ce qu'on appelle l'impressionnisme, et que donc il devient un gentil peintre de la lumière, de la couleur, etc. Je ne sais pas la raison exacte, mais c'est quand même très curieux que cet artiste qui a fait et qui a été le seul de ce moment-là à faire des séries qui n'étaient pas quelque chose qu'on connaissait vraiment dans la façon de faire de la peinture, faire les séries évidemment dont on connaît, qui vont des meules à la cathédrale en passant par certaines autres expériences, sur la couleur, sur le temps qui passe, et qui étaient des cycles extrêmement longs, qu'il a d'ailleurs souvent repris au cours des années, en fait déjà, rien que là-dessus, je pense, l'un des artistes les plus contemporains qu'on puisse imaginer. Et il y a autre chose dont je me suis souvent servi de son travail, et en particulier des œuvres, par exemple, qu'on a avec nous ce soir dans cette salle, qui a souvent été pour essayer de contrarier, et je dirais même de critiquer fortement, toute une tendance à la fois de la critique, de l'histoire de l'art, etc., qui, entre autres choses, a souvent établi son admiration, disons, pour la peinture américaine d'après la Deuxième Guerre mondiale, en écrivant dans toutes les formes possibles et imaginables que pour bien comprendre cette peinture et pourquoi cette peinture était grande, donc au point de vue du format, c'est parce que ça venait d'un pays neuf, d'un pays gigantesque, et qu'on retrouvait ça chez des artistes, que ce soit Roscoe ou Pollock, et très souvent on mettait l'accent sur ces formats, les formats américains, les ateliers américains, etc., etc. Or moi j'étais quand même très surpris d'abord que toute la peinture qui avait pu être celle de la culture européenne, c'est une peinture de format gigantesque, il suffit de faire un petit tour au Louvre pour s'en rendre compte. Mais surtout que dans la même époque et très peu d'années avant, il y avait un artiste, Claude Monet, qui avait fait des œuvres qui sont à peu près 10 fois plus grandes que les grands Pollock, par exemple, au niveau du format. Et que bien sûr, on ne se serait jamais aventuré à dire « oui, c'est très grand parce que les paysages français sont gigantesques, etc. » Et que en plus, on sait qu'une partie de son inspiration a été faite dans un... Je vais exagérer un petit peu, mais quasiment à l'opin de terre, un petit environnement qui nous donne ces espèces de panoramiques absolument formidables, qui aussi sont d'une taille absolument formidable. Et donc ça, c'était aussi une chose. Et quand je revois ça ce soir, j'ai cette même impression. En dehors du fait de tout ce que ça peut signifier et comment cette peinture, en fin de compte, est par rapport à son époque, je trouve vraiment très, très, très en avance et annonce un tas de choses qu'on a vues se développer par la suite. On est en face d'une envergure qui vraiment remet à zéro, parce que c'est même pas plus intéressant de dire que c'est grand et que pour ça, ça serait intéressant, mais remet à zéro toute cette façon confortable d'essayer de montrer, par exemple, et particulièrement la peinture américaine, en particulier abstraite, sous prétexte que ce sont des grands formats. Je veux dire, on a sous les yeux des formats qu'à ma connaissance, aucune de ces peintures n'a jamais atteint. Donc, format pour format, ça m'a toujours intrigué de voir combien de personnes pouvaient parler de ce genre de choses qui, à mon avis, ne correspond à rien, ne signifie rien, et qui surtout ne vient pas appuyer l'idée que parce que c'est fait dans un pays très vaste, ça permet de faire des tableaux qui font 3 mètres par 2 mètres. Quand on voit en face de quoi on est ici, on comprend que ça n'a pas forcément eu besoin des grandes surfaces de l'Arizona pour pouvoir être créé. Bon, il y a plein de choses à dire, donc je m'arrête maintenant.
Je ne sais pas si tout le monde ici a en tête la façon dont vous avez commencé, que vous en parlez l'autre jour, c'est-à-dire cette espèce de reportage que vous avez fait tout à fait au début de... avant même d'être peintre peut-être, ou avant même de commencer à travailler, pour aller voir des artistes dans le sud de la France. Et tout ce que ça a pu, au fond, déclencher comme interrogation sur le rapport entre le paysage et l'atelier.
Oui, je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est plus intuitif qu'autre chose, mais j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et je suis allé faire un périple que j'avais intitulé l'influence du paysage sur l'œuvre des artistes de Cézanne à Picasso qui ont vécu dans le sud de la France, donc Provence et sud de la France. Enfin, la chose qui m'avait intrigué, je résume quand même cette chose-là, sans que je puisse vraiment ni m'en servir ni savoir ce que ça voulait dire, mais l'une des choses qui m'avait le plus frappé, c'était non seulement les rapports que j'ai pu trouver entre les résultats, les œuvres de gens aussi différents que André Masson ou Picasso ou d'autres moins réputés ou moins connus, et les lieux dans lesquels ils habitaient, mais surtout, comme je les ai vus, que j'allais voir ce qu'ils faisaient chez eux, dans leurs ateliers, etc., cette espèce d'osmose très intéressante qui était frappante des moins, disons, talentueux ou des moins connus jusqu'aux célébrités de l'époque, c'était l'osmose qui existait entre la façon, l'atelier dans lequel ils vivaient, et les œuvres qui s'y trouvaient, la façon dont ils pouvaient en parler, les montrer, etc. Et ça allait de gens très très différents. Je me souviens, j'ai rencontré des artistes comme Magnelli, André Masson, c'est vraiment des gens qui n'ont quasiment aucun rapport entre eux, Chagall, Picasso. Et il y avait partout, chez tous ces gens-là, cette extraordinaire qualité entre le lieu et la façon dont ils avaient de parler, puisque moi je les interrogeais un peu pourquoi ils se trouvaient dans le sud de la France, etc., sur le pourquoi d'être là et qu'est-ce que ça leur faisait, comment ils vivaient cette géographie. Et très peu de temps après, lorsque, évidemment, m'étant intéressé à ces gens, j'ai commencé à aller voir ce qu'ils faisaient en dehors de ce lieu, donc j'allais voir leurs expositions à Paris, on peut dire que cet enthousiasme tombait d'une façon absolument presque tragique, parfois pathétique, et je ne retrouvais quasiment rien de ce qui m'avait tellement plu, tellement séduit dans ces rapports directs entre le lieu dans lequel ces gens travaillaient et ce qu'ils faisaient. Donc ça m'a beaucoup marqué, et je pense que ça... Après ça, je m'en suis servi autrement. Après ça, j'ai sans doute pas exclusivement à cause de ça, mais certainement en partie, j'ai abandonné l'atelier. J'ai travaillé directement dans la rue. Je travaille toujours dans des lieux. Mais c'est certainement pas complètement étranger à ce choc que j'ai eu de la perte considérable de ce que pouvait être une œuvre dans son ambiance, quelle qu'elle soit, et cette œuvre déraciné dans l'endroit où on va la voir, c'est-à-dire le musée, c'est-à-dire la galerie, c'est-à-dire un lieu X dans lequel elle se trouve. Et donc cette déperdition, j'ai toujours essayé de trouver des moyens pour empêcher qu'elle se produise. Alors évidemment, dans ce que je dis, il y a aussi un certain niveau et une certaine force d'artiste qui fait que cette déperdition est plus ou moins grande. Il est évident que dans les exemples que j'avais vus, La plus petite des perditions, elle était sans doute chez quelqu'un comme Picasso. Parce que il s'agit de quelque chose qui déborde un tout petit peu, justement, de choses qui sont peut-être de l'ordre du personnel, de l'intime, et qui d'un seul coup transgressent ces rapports-là. Mais en général, quand même, une espèce d'affaiblissement. D'où, après ça, tout un œil un peu critique sur que sont ces lieux dans lesquels ces œuvres se voient, c'est-à-dire le musée, c'est-à-dire les lieux qui sont faits pour l'œuvre. Et là, on peut revenir à Monet. Là, ici, on est, à mes yeux, dans l'un des chefs-d'œuvre les plus étonnants et les plus enrichissants qu'on puisse imaginer du XXe siècle, avec un artiste qui a pensé que le lieu devait être adéquat à son idée de l'œuvre et qui nous a donné cette chose où tout est c'est un ensemble extraordinaire, l'architecture, ce qu'il a voulu, comment il a voulu la faire, qui est refait d'une façon, je pense, assez proche de ce qu'il avait décidé au début. Et ensuite, que ses œuvres se trouvent exactement dans ce lieu et que, en fait, on peut pas aller les voir autre part. Il faut venir ici, ce qui pose tout un tas d'autres questions, dont Monet est l'un des artistes, je ne vais pas dire le père, mais l'un des artistes, sans faire des peintures murales, sans faire du décor, a mis un coin absolument extraordinaire dans ce problème, par exemple, alors que c'est sans doute là où il est le plus connu et peut-être même le plus asphyxié, grand peintre de chevalet, si on peut les imaginer, d'autant plus que les impressionnistes, ils ont quasiment inventé le chevalet, on pourrait dire, fait ce travail ici où tout ça est entièrement balayé. On est dans l'architecture, on est dans la peinture, on n'est plus dans le chevalet, on ne transporte plus rien, il faut se transporter, il faut voir, il faut bouger. Enfin, pour moi, quelque chose d'absolument vivifiant et toujours extraordinaire.
Je lisais tout à l'heure, en cherchant quelque chose qui était en relation avec votre travail, je trouvais cette réponse à une question qu'on vous avait posée, et vous disiez, je n'ai pas d'atelier, ou l'atelier, c'est le lieu où je me trouve. Et ça, c'est tout à fait Monet, parce que on a beaucoup reproché à Monet d'avoir triché, d'avoir exagéré, etc., sur sa vie à l'extérieur, sa vie dans le paysage, sa capacité de peindre à l'extérieur. Mais la question lui est posée pour la première fois par un journaliste à l'époque où il vit à Vétheuil, journaliste qui débarque à Vétheuil, et Monet est au bord de l'eau avec ses embarcations qui sont là, et le journaliste lui dit « Où est votre atelier ?» Et Monet dit, il montre la Seine et les îles, il dit « C'est ça mon atelier ». Alors on a dit non, c'est pas vrai, il triche, etc. Il avait un atelier dans la maison, mais non, quand on visite cette maison de Vétheuil qui existe toujours, et où Monet vivait avec sa femme mourante, deux enfants, plus les Hochedet et leurs six enfants, plus un domestique, une domestique ou deux, cette maison est minuscule, et donc il n'avait pas d'atelier dans la maison, donc il travaillait dehors. Voilà, et donc je pensais à Monet en lisant cette phrase de vous, Daniel Buren, mon atelier, c'est le lieu où je me trouve.